Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Justine, bonjour Jérôme.
Bonjour.
Et oui, parce que c'est Jérôme Sainte-Marie, politologue non conformiste, président de Polling Vox, auteur de Bloc contre Bloc, sous-titre La dynamique du macronisme aux éditions du CERF, paru cet hiver, en novembre, je crois, 2019.
Absolument.
Et juste avant Canteloup, un sujet qu'on ne va pas développer, mais qui occupe beaucoup l'actualité, où j'ai une question à vous poser, Jérôme Sainte-Marie. Le coronavirus. Le coronavirus, en Chine, on en est à 41 morts, ce qui correspond à peu près à 3% maximum des gens qui ont contracté le virus. En France, cette année, et enfin dans l'année 2018-2019, il y a eu 10 000 morts de la grippe. À peu près 15% des personnes qui avaient la grippe sont décédées. Et pourtant, la grippe ne fait pas une grande couverture médiatique. Et pourtant, le coronavirus, lui, en fait une considérable, suscite de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'attention. Est-ce que vous avez une explication de cet écart?
Oui, bonjour peut-être. Olivier Duhamel. Non, je pourrais vous répondre en faisant un peu du David Goudart, qu'on s'intéresse davantage aux maladies des anywhere, aux maladies plus importantes des somewhere, c'est-à-dire que finalement les élites mondialisent.
Goudart, c'est un
variation
un entre auteur britannique qui a fait la différence entre ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part.
Voilà, on pourrait faire une variation évidemment sur dire que voilà, les élites mondialisées accaparent l'attention au détriment des malheureux sédentaires qui pourtant souffrent dans leur terroir. Sincèrement, je ne le ferai pas sur cette question-là. Je pense que ça renvoie surtout, me semble-t-il, à une peur millénaire en fait, par rapport aux grandes épidémies et à la fragilité humaine. Sincèrement, je ne sens pas là une explication sociologique particulière sur ce phénomène.
Oui, peut-être qu'on peut aussi, en dehors du fait que justement ça vient d'ailleurs, ça vient pas de chez nous, ça vient de Chine, on ne sait pas comment, tout le monde ne sait pas qui peut le contracter. Peut-être aussi le fait que si ça se répandait, ça aurait des conséquences économiques et sociales considérables, ce qui n'est pas le cas de la grippe. Je veux dire, on ne ferme pas les frontières, ou en tout cas on ne multiplie pas les contrôles aux frontières, on ne bloque pas des régions, etc., parce qu'il y a une épidémie de grippe.
Alors oui, que probablement, là... mais vous savez, enfin, il y a quand même des constances, pour le coup, anthropologiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grandes peurs qui existent dans notre population et qui semblent qu'il y ait durablement. C'est, par exemple, effectivement, la peur des guerres de religion. Ça, c'est une peur qui structure un peu notre imaginaire. Quelqu'un comme Jean-Claude Michel en a beaucoup parlé. La peur des grandes épidémies renvoie à des traumatismes historiques qui me paraissent être une clé d'explication possible.
Bon, en tout cas.
En tous les cas, la grippe avait fait 15 000 morts en 69, 1969, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a lancé des campagnes et des recherches pour vacciner les gens qui se vaccinent. Bon, tous les ans en France, il y a des morts, je ne sais pas exactement le nom, mais il y en a.
Et 8 à 10 000, je vous dis.
8 à 10 000, et le gouvernement ne demande pas, ne consigne pas les habitants dans les villes, en leur interdisant de prendre le train. Ce qui est formidable, c'est de voir les images en Chine, c'est de voir que pour l'instant, il y a très très peu de morts, et les gens obéissent, et ce sont des villes mortes, tout est arrêté, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas ce qui leur fait peur, est-ce que c'est un souvenir qu'ils n'ont pas de la grippe espagnole, qui au lendemain de la guerre avait fait 100 millions de morts, et qui n'avait rien d'espagnol, parce qu'elle était partie déjà aux États-Unis. Et donc là, il y avait un brassage, mais ça s'explique aussi parce que c'était un virus qu'on ne connaissait pas, et aussi parce que ceux qui en étaient atteints en Europe étaient des gens qui avaient déjà, dont le physique était très altéré par des privations, par la guerre et tout ça, que ça avait vu cette flambée. Mais je veux dire, depuis, il y a la grippe, mais enfin...
Pour la Chine, moi, je maintiens mon hypothèse. C'est-à-dire que si l'épidémie explosait en Chine, à ce moment-là, ils seraient obligés, les gens annuleraient les vols, les gens arrêteraient leurs relations avec la Chine. Et la Chine est devenue une puissance économique mondialisée qui ne veut pas prendre ce risque.
Oui, donc mais est-ce que c'est un virus qui est de l'ordre de ceux qu'on combat en France en se vaccinant, ou c'est quelque chose qui est quelque chose de tout à fait nouveau ou pas? On n'en sait rien pour l'instant.
Allez, pendant ce temps-là, il y en a un qui n'a pas peur, il y en a d'autres qui n'ont pas peur d'investir, et en France, et c'est ça qu'évoque notamment M. Canteloup.
Et
Emmanuel Macron était hier à Dunkerque pour visiter le site de l'entreprise AstraZeneca, un groupe pharmaceutique anglo-suédois qui prévoit d'investir 500 millions d'euros sur le territoire national. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles qui nous écoutent, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. Oui, 500 millions. 500 millions, c'est une coquette somme, c'est formidable. 500 millions dans une usine française. Oui, je le dis, les résultats sont là. Vous voyez, on se plaint, on se plaignait que je cassais le code du travail, que je détruisais les retraites, qu'on se plaint que je revienne sur des acquis sociaux, que je m'assoie sur la pénibilité. Mais aujourd'hui, ouvrons les yeux. Vous savez comment les grands patrons appellent la France ?
Non.
La nouvelle Bulgarie.
Oula.
Nous sommes un Eldorado pour les entreprises. Et depuis le début, c'est notre projet.
Non, mais ça donne des résultats, on ne dit pas le contraire, monsieur le Président.
Oui, ça donne des résultats. Mais il y a encore, il faut le dire, des résistances dans ce pays. Par exemple, le travail des enfants, c'est encore un tabou. Il faut passer au-delà et qu'il faut disrupter.
Oui, c'est cela. En revanche, votre visite à Dunkerque, puis votre visite à Versailles, ont été perturbées par des manifestants.
Non, mais alors écoutez, là-dessus, il faut arrêter. Il faut arrêter. On m'empêche d'aller dans tous les endroits que j'apprécie. Les théâtres, les entreprises. Est-ce que moi, j'empêche les gens d'aller dans leurs endroits préférés ? Est-ce que j'empêche les Français d'aller à leur compète de tuning ou à leur élection de Miss T-shirt mouillé ? Il faut que ça cesse.
Alors, Canteloup, il y va fort quand même. Hein, le travail des enfants, il faut disrupter. Il est encore plus critique que vous de Macron, c'est assez rare.
Alors moi, je ne suis pas particulièrement critique d'Emmanuel Macron. Il me semble qu'effectivement, il a un projet, il a une base sociale, il a une volonté et il est déterminé à l'appliquer. Le problème, c'est que ce projet est probablement, d'après les études d'opinion en tout cas, minoritaire dans le pays. Et que par ailleurs, il y a effectivement une déception pour l'instant à l'égard de résultats qui seraient insuffisants. Ce n'est pas le premier qui subit ça à la tête de l'État. Il y a deux différences importantes, à mon avis, qui expliquent le rapport conflictuel qui s'est installé entre le président de la République et une partie de l'opinion française. La première chose, c'est quand même les conditions de son élection. Et ça, il n'y est pas pour grand-chose, mais de fait, il est élu dès le premier tour avec 24%. Il est tellement élu dès le premier tour qu'il n'attend pas le soir du second tour pour aller célébrer sa victoire. Il le fait à la rotonde dès le premier dimanche. Et que par ailleurs...
Veut dire qu'il manque de légitimité ?
Pas de légitimité au sens démocratique. Les institutions ont été respectées, les règles de notre démocratie ont été suivies. Mais disons que les conditions de son élection poussent jusqu'à l'absurde les vices de la Ve République. C'est-à-dire qu'effectivement, et d'autant plus qu'avec les élections législatives qui interviennent immédiatement après la présidentielle, on savait qu'il aurait une majorité. Elle a été simplement, cette élection législative a été entachée par une abstention massive, 52% au premier tour, 58% au second. Et donc, beaucoup de Français se sont convaincus, peut-être avec une part de mauvaise foi, mais les citoyens ont le droit d'être de mauvaise foi eux aussi, qu'ils n'avaient pas voté pour ce projet et qu'au fond, il y a effectivement un procès latent dans l'opinion en légitimité à l'égard du président de la République.
Pourquoi on lui fait ce procès qu'on ne l'a jamais fait, par exemple, à Jacques Chirac, qui avait beaucoup moins que lui au premier tour.
C'est précisément au point où j'allais venir. C'est la seconde chose qui explique effectivement ce conflit latent qui traverse le quinquennat. C'est que Jacques Chirac, c'était exactement cela. Effectivement, il est élu d'une manière un peu quasiment accidentelle dès le 21 avril 2002, d'une certaine manière. Il a ensuite, rappelez-vous, une majorité très large. L'UMP donc à l'Assemblée nationale, et pourtant on ne peut pas dire qu'il était en plein dynamisme politique. Donc on voit bien le côté mécanique de cette majorité qui suit la présidentielle. Mais la différence énorme, c'est que Jacques Chirac n'avait pas un projet de transformation radicale de la société. Ça lui a même été suffisamment reproché.
Surtout, il ne voulait pas, en disant que ce pays était trop fragile pour le bousculer. Ça, il ne voulait surtout pas faire de réforme. C'était quand même ça, son idée première. Mais là, je crois que quand le président dit... Moi, c'était dans mon programme. C'était dans le programme, mais qui avait expliqué ce qu'il y avait dans la réforme des retraites à points et universelles ? universelle quand on connaît la passion des Français pour l'égalitarisme. Par exemple, on peut s'étonner aujourd'hui qu'aucun syndicat ne se fasse écho de la proposition du gouvernement d'exclure toute retraite inférieure à 1 000 euros, ce qui devrait quand même, c'est une mesure de gauche, ça, personne n'en fait partie. Non, mais je crois que c'est arrivé sur un terrain déjà embrasé et chagrin, et la réforme, les Français ne l'ont pas compris, et ont surtout compris que chacun aurait plutôt moins après qu'aujourd'hui. Donc c'est une peur générale qui n'a pas été expliquée, il n'y a pas eu la pédagogie qu'il fallait, et il n'y a toujours pas la pédagogie qui est bien faite où les Français comprennent.
Donc on lui fait finalement reproche de réformer sans pédagogie et sans avoir vraiment reçu un mandat pour ça, et s'il ne le faisait pas, on lui ferait d'autres, peut-être, reproches de ne pas le faire. On y revient dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ils reçoivent ce matin Jérôme Sainte-Marie, président de la société d'études et de conseil Pollingvox et auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf.
Et parmi les grands sujets médiapolitiques de la semaine, il y a eu les controverses sur la montée de la violence anti-Macron. Vous avez ex-porte-parole de la France Insoumise, Raquel Garrido, qui a retweeté un tweet qui rappelait que le 21 janvier 1793, on avait décapité Louis XVI et qu'on pouvait bien faire la même chose pour Macron. Et voilà ce que Jean-Luc Mélenchon disait quand on le sommait en quelque sorte de désavouer cela.
Je ne botte pas en touche par rapport à Raquel Garrido, pour qui j'ai une immense estime, et son tweet nous sert parce que nous avons toujours intérêt à brasser la braise de la révolution de 89. Je ne crois pas que Mme Garrido appelle à décapiter M. Macron. En tout cas, elle ne le fait pas, je ne le fais pas, personne ne se propose de décapiter qui que ce soit, nous sommes contre la peine de mort, et voilà.
C'était dimanche sur LCI, Catherine Ness, à vous.
Bon, mais lui, il appelle à la révolution depuis qu'il a été battu à la présidentielle. Il ne rêve que de cela. Il a fait des discours, d'ailleurs, où il s'était trompé. J'ai oublié sur quoi, sur la révolution. Et en tous les cas, voilà, il a envie que vraiment ça soit le déferlement. Je suis le bruit et la fureur. Et puis la fureur, elle se passe. C'est pas lui qui en est le leader, mais ces événements nous échappent. Fignons d'en être les organisateurs. Et maintenant, il jubile parce qu'il est partout à la tête des grèves, des mouvements, alors qu'il faut noter que c'est vrai qu'il y a des grandes manifestations, mais par rapport à la manifestation de 2010 sur les retraites, où là c'était lisible, on passait de 60 à 62 ans, il y avait jusqu'à 1 million de personnes dans la France qui défilaient. Là, ce n'est pas ça du tout.
Oui, non, mais si vous permettez, Catherine, restons sur la question de la détestation de Macron, et je voudrais demander à Jérôme Sainte-Marie s'il considère que ça a toujours existé, et il y a eu la détestation de Sarkozy, de Hollande, ou si là, il y a, même évidemment très minoritaire, une forme particulière de haine.
Oui, je voudrais vous répondre là aussi en deux temps, j'en suis désolé. La première chose, c'est sur la violence verbale. Est-ce qu'elle est préoccupante? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense déjà qu'on est dans un imaginaire national, un imaginaire politique, qui est un imaginaire français. On n'y peut rien si nous sommes dans un régime qui a été fondé par un coup d'État en 1958 et que nous célébrons comme fête nationale une journée d'émeute accompagnée d'ailleurs de sang versé le 14 juillet. En quelque sorte, l'idée est ancrée en France que la violence, d'une certaine manière, est l'accoucheuse de l'histoire, pour parler comme Marx, je crois. Et ça fait partie, en quelque sorte, de notre répertoire politique. À partir de là, est-ce qu'il faut que le politique s'interdise d'avoir des expressions violentes? Je ne le crois pas non plus. Ça existe dans la société, c'est au contraire verbaliser les choses permet d'orienter ces sentiments violents dans des formes...
Vive Trump, ça que vous dites?
Dans des formes républicaines en l'occurrence. Et d'ailleurs, on a vu à l'occasion des Gilets jaunes une expression spontanée. Effectivement assez violente verbalement. On a vu effectivement
sur le terrain
tout un imaginaire lié au souvenir ou à la légende de la Révolution française qui s'est exprimé. Moi, ça ne me paraît pas grave. Et
attendez,
inversement, quand j'entends Emmanuel Macron...
Deuxième point, vous êtes quand même un peu audacieux dans votre thèse. Vous considérez par exemple de la même façon que les discours appelant au djihad, c'est de la verbalisation, donc c'est une bonne chose, c'est de la violence verbale,
là nous sommes...
et c'est pas grave. Non, mais vous ne faites jamais de lien entre le discours ou l'appel à la discrimination, ou l'appel à l'antisémitisme. Vous considérez que les mots... Non, mais attendez, si vous ne me comprenez pas, je n'assimile pas. Je vous dis, nous sommes dans un pays dans lequel nous limitons la liberté d'expression quand il s'agit d'appel à la haine et à la discrimination. Et vous, vous nous dites... quand on parle de éventuellement décapiter Macron, ça fait partie de notre imaginaire, oui. Et c'est une bonne chose, cette violence verbale.
Bien sûr,
parce vous, que... Donc, vous excluez qu'on passe de la violence verbale à la violence physique ?
Olivier Duhamel, vous qui avez une très grande connaissance, y compris des mouvements sociaux sans doute, vous savez très bien que ce qui est proféré dans les manifestations ne correspond pas à une intention précise, c'est un message politique. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se promenaient avec un masque de Macron au bout d'une pique, en quelque sorte. Ça renvoie effectivement à l'idée, à une volonté de dire que voilà, nous serions encore sur l'ancien régime, etc. Je ne partage pas cette opinion-là, mais elle est tout à fait, moi, elle me paraît pas choquante. Par ailleurs, inversement, et je vais vous répondre, alors, je ne vais pas du tout, justement, je ne comprends pas que vous fassiez la comparaison avec le djihad ou l'antisémitisme, ça me paraît des registres tout à fait différents, parce que là, derrière, il y a des actes bien précis
qui sont faits. Je n'ai pas dit que c'était voilà. La même chose, parce qu'après, sur les réseaux sociaux, je vais m'en prendre. Voilà, non, inutilement, je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis qu'il y a de nombreux cas dans lesquels on considère qu'il faut arrêter à certaines limites la violence et la haine verbale, parce qu'elle risque d'avoir des conséquences de violence et de haine physique.
De ce point de vue-là, vous voyez, je suis très américain et très libéral, comme le sont les Américains. Je crois qu'effectivement, l'expression « lutter contre la haine », ça n'a pas de sens. C'est comme la guerre contre le terrorisme. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les gens aient des sentiments profonds, voire violents, à l'égard de telle ou telle force politique, pourquoi pas ? Il y a plein de gens qui haïssent Jean-Luc Mélenchon, qui haïssent Marine Le Pen, qui haïssent je ne sais trop qui encore. Ils ont le droit de le faire. Le problème, c'est quand vous avez des menaces physiques précises, etc. Mais c'est pour ça que je suis également très réservé, comme énormément d'ailleurs de monde, comme beaucoup de juristes notamment. Je pense à des gens comme François Sureau, comme Régis de Castelnau, comme Jacques de Saint-Victor, que je cite dans mon livre. Très, 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 très réservé, on va dire ça comme ça, à l'égard des lois qui veulent contrôler l'expression sur Internet notamment, et qui veulent contrôler les discours de haine. Les gens ont parfaitement le droit de détester une politique et de détester ceux qui l'amènent. Ça ne me paraît pas en
voilà
soi choquant en démocratie.
Dit, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis. Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et avec vous, Catherine Ney, mais avec également votre invité du jour, le président de Pollingvox, Jérôme Sainte-Marie.
Alors, il y a un sujet qu'on pourrait ne pas évoquer, parce que, d'une certaine manière, ce n'est plus un sujet dans le débat public, mais pourtant, il y a eu une manifestation, même si elle n'a pas rassemblé les foules espérées de la part des organisateurs, mais pourtant, il y a un texte en discussion au Sénat. C'est donc la réforme de la PMA, de la procréation médicalement assistée, ouverte dorénavant aux femmes seules et aux femmes en couple. Comment expliquer cette espèce de consensus sur le fait que ce ne soit plus un sujet, Jérôme Sainte-Marie ?
Alors, c'est quand même, ça reste malgré tout un sujet pour des millions de personnes qui sont très préoccupées de l'arrivée de la PMA. Et peut-être
juste, oui, je
derrière,
vous dis, plus un sujet qui occupe le devant de la controverse.
Voilà. Là, vous raisonnez en sondeur, vous prenez mon rôle, parce que c'est le fait que les gens soient majoritairement désormais favorables, et de plus en plus, en réalité, pour la PMA, c'est massif désormais, c'est de l'ordre des deux tiers, et pour la GPA, c'est une majorité de Français. Et en plus, là, on voit que le combat va être très difficile pour ceux qui s'y opposent, c'est que plus on est jeune et plus on est favorable à la PMA et à la GPA. Je crois que là, on a plusieurs choses qui jouent. D'abord, une logique tout simplement d'égalité des droits qui emporte le raisonnement. Alors qu'il y a d'excellentes raisons d'être réticent à l'égard de la PMA et plus encore sans doute de la GPA, ça paraît quand même dans la logique des choses. La dimension de marchandisation des corps qui peut être contenue, d'après ces critiques, dans la GPA, et cette logique-là aussi est tellement celle de notre société, d'une marchandisation généralisée de tout ce qui est possible de marchandiser, que je crois que c'est aussi en quelque sorte le cours de l'histoire. C'est
précisons que la loi n'autorise pas la GPA. Sur ce point,
oui,
il y a un décalage sur ce point.
Vous savez, c'est une...
Je dis une chose inexacte ?
C'est une roue crantée, sauf que vous savez très bien qu'on peut... Là-dessus, je crois que la Cour de cassation, me semble-t-il, vous m'arrêtez si je me trompe, si on commence à reconnaître effectivement la filiation pour des GPA qui ont été faites à l'étranger, etc., la GPA en France n'est pas acceptée, mais on voit bien qu'il y a une logique qui me paraît presque, y compris pour des raisons juridiques, qui paraît difficile à arrêter. Je crois que c'est une logique tout simplement qui est liée, alors moi je demande ma propre explication à partir de mes propres outils conceptuels. Moi je pense que c'est tout simple. Ce que nous vivons, c'est tout simplement une nouvelle phase du capitalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'extension propre au capitalisme, qui est très bien décrit par Karl Marx à la mystiche, comme on dit désormais, du 19e siècle, qui effectivement montre pourquoi dans notre régime, eh bien, nous allons vers la commercialisation de tout ce qui ouvre un nouveau marché. Eh bien, de mon point de vue, nous sommes également là-dessus.
Mais vous avez remarqué que la gauche ne s'oppose pas à la PMA.
Bien sûr, et c'est
non, mais la droite non plus au Sénat. Hein,
non, mais maintenant, on peut même aller plus loin.
Ce sont les sympathisants de la France Insoumise qui, c'est
non,
les électeurs
Jean-Luc
Mélenchon,
la...
qui sont le plus favorables à la GPA.
Donc, c'est, tout ça contredit un peu votre thèse.
Pas du tout. Que... Non, vous avez effectivement une vraie cohérence du libéralisme culturel et du libéralisme économique. Bon, là-dessus, j'adhère totalement à la thèse du philosophe.
Vous venez de nous dire que c'était la nouvelle. Vous l'expliquez par le capitalisme. Catherine Ney vous dit. La France insoumise est en première ligne là-dessus.
Contre le capitalisme, voilà. Alors, je veux dire,
donc vous considérez la France insoumise comme la force porteuse du capitalisme ?
En grande partie, bien sûr. En grande partie, à travers...
Écoutez bien, chers auditeurs.
Non, mais bien sûr, bien sûr.
Jérôme Sainte-Marie, vous avez dit qu'il n'était pas conformiste. Là, vous en avez la preuve. Il dit que la France insoumise est en grande partie la force de soutien du capitalisme.
Il y a beaucoup de gens qui écrivent ça. Vous savez, le capitalisme a deux adversaires, en quelque sorte. Les droits sociaux qui sont deux obstacles, deux freins. Les droits sociaux conquis par les luttes sociales, notamment celle du mouvement ouvrier au sens large, et puis également autre frein au capitalisme, et ça apparaît dès la Révolution française, vous le savez bien, c'est les traditions. Les traditions morales notamment, et par exemple à la Révolution française, quand on a abattu le pouvoir de l'Église catholique, on a aussi mis fin à beaucoup de jours fériés qui ralentissaient l'activité économique. Et de ce point de vue-là, c'est une contradiction qui a traversé toute l'histoire de la gauche, notamment sur le fait que, certes, en mettant à bas en quelque sorte le vieux monde, en combattant ce qu'ils appelaient la réaction, en réalité, ils favorisaient aussi très largement un développement que l'on peut juger parfaitement positif de l'activité économique, mais aussi d'une forme de libéralisme.
Oui, moi j'aurais parlé du Sénat, parce que n'a pas tous les amendements de la suppression de la loi ont été rejetés, mais je crois aussi que la droite au Sénat, qui les sénateurs qui rappellent qu'ils ont voté la suppression de la peine de mort, la loi Veil, s'aperçoivent aussi que ça n'est pas majoritaire, que les Français en majorité maintenant acceptent la PMA. Et surtout, ils ont été quand même très, très pénalisés par le fait d'avoir mis en tête de liste aux européennes le jeune philosophe Bellamy, qui lui était un opposant à la PMA, et que ça, ils ont été sanctionnés pour ça. Donc maintenant, ils font très attention. Quel que soit leur sentiment personnel qui demeure hostile, eh bien voilà, pour des raisons électorales aussi, ils disent on ne peut pas aller contre ce que veulent les Français.
Eh bien, on va revenir sur le terrain électoral après les envolées de Karl Marx Sainte-Marie sur les élections municipales, notamment à Paris, dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, qui sont accompagnés ce matin par Jérôme Sainte-Marie, président de la société d'études et de conseil Pollingvox et auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf.
J'entends qu'on parle ici et là de division qui fait perdre, et je vais vous dire, cette question de division, c'est une diversion. Je suis un homme de dialogue, j'écoute tout le monde, je pense être certainement celui qui parle à tout le monde dans cette élection. Et qui invite
pas trop
à discuter,
avec Benjamin Griveaux,
et qui invite à discuter tout le monde, autour d'un projet, autour de valeurs, autour du sens de notre engagement pour la capitale, pas pour des jeux politiciens.
Cette question de division, c'est une diversion. Bah, il y va carrément, Cédric Villani, qui était l'invité d'Aurélie Herbemont, lundi à 19h sur Europe 1. À Paris, Catherine Ney, on parlait beaucoup pendant longtemps, autrefois, des immenses divisions de la droite. Mais en vérité, là, c'est plutôt La République En Marche qui organise sa propre défaite, non ?
Ah oui, mais La République En Marche, je veux dire, c'est comment faire qu'il n'y ait qu'un seul candidat ? Il y en a un qui est soutenu par En Marche, qui est Benjamin Griveaux, et puis Cédric Villani ne veut pas se retirer. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais je veux dire, moi, ce qui me frappe dans ces élections municipales, hors Paris, c'est de voir les dissidents, c'est de voir que deux ministres, je veux dire, que le ministre de l'Agriculture et puis M. Lemoine sont candidats dans une même ville, je ne sais plus, rappelez-moi, Biarritz, et qu'il ne se passe rien, et que tous deux, et qu'il n'y a pas une autorité pour les faire céder. Moi, je trouve ça incroyable. Et là, il n'y a personne pour leur imposer. Est-ce qu'autrefois, c'était plus facile de, quand il y avait... Non, mais là, on est quand même étonné. De ce désordre qui, bah écoutez, qui est
deux,
très mauvais.
Il y avait deux manières de faire. Une première manière qui était faite quand c'était la mode, qui n'est plus faite parce que c'est pas la mode, qui sera refaite quand ce sera la mode, qui sont les primaires. Et quand, à droite, c'est comme ça qu'on avait réglé les candidatures sur Paris. Et là, s'ils avaient fait une primaire, ce que demandait Villani entre Griveaux et Villani, on serait pas dans cette situation.
Ah, mais ça, c'est toujours
pas.
Votre goût pour les primaires.
Non, c'est pas mon goût. C'est
ah, si, vous adorez les primaires.
Mais
ça,
c'est
alors
pas
là.
La question. Mais la question n'est pas savoir si j'adore ou pas. Tout le monde s'en fiche, Catherine.
Mais non, mais moi,
la
je question, m'en fiche c'est, pas. Est-ce c'est votre... Ça a été votre grand combat pendant longtemps.
Oui, mais moi, je parle pas de vos passions. Mais la question n'est pas là. La question est-ce que oui ou non, ça aurait été un moyen de le résoudre? La réponse est oui, c'était un premier. La seconde manière, c'était d'exfiltrer Villani. Oui. Et de je sais pas, de faire rentrer Villani au gouvernement. Alors je vous dis pas, ah oui, c'est votre passion pour les ministères. Non, non. Je raisonne alors, en logique.
Et, oui.
Et en logique.
Comme avait fait Jospin quand il y avait Lang.
Voilà,
et...
Exactement. Alors, eh bien, aucune de ces deux voies qui existaient n'ont été choisies. À croire qu'on on voyait pas l'étendue des dégâts, ou on trouve ça négligeable.
Alors dans cette affaire parisienne, moi je ne suis pas frappé par la nouveauté de la situation. Déjà parce que souvent aux élections municipales, vous avez des phénomènes de dissidence. Je me rappelle des élections municipales de 1989, exemple un peu ancien, mais qui était marqué par des dissidences très nombreuses et avec succès, par exemple celle de Monsieur Vigouroux qui avait fait, je crois, le Grand Chelem à Marseille. Et il y en avait un peu partout à cette époque-là, d'ailleurs. Et pourtant, 1989, ça paraît comme vraiment une période où la gauche et la droite structuraient bien les choses. Il y a un autre aspect qui, à mon avis, joue dans le sens de cette confusion. Et oui, sachant qu'à Paris, en plus, c'est pas la première fois. Il y a eu quand même les affrontements, on sait, entre Monsieur Tibéri et Monsieur Toubon, par exemple. La droite a été profondément divisée. C'est une des raisons de sa défaite, d'ailleurs. Vous avez aussi un autre aspect qui joue en faveur de cette division, c'est peut-être le mode de scrutin. Le fait que ça se passe en 20 arrondissements, ça permet également des combinaisons et ça permet à certains d'espérer s'en sortir au troisième tour s'ils maintiennent leur candidature. Et puis, il y a peut-être aussi un phénomène qui explique, là je reprends ma petite casquette d'électoraliste et de sociologue, c'est le fait que Paris ressemble de moins en moins à la France. Je m'explique, le nouvel ordre politique est marqué par l'opposition, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, entre les populistes et les progressistes. À Paris, ce n'est pas le cas du tout. Le Front National n'existe pour ainsi dire pas. Marine Le Pen a fait 5% au premier tour, 10% au second. Et c'est une ville où, en fait, qui est devenue assez homogène politiquement, où il y a pas mal de, comment dirais-je, il y a X nuances de progressisme en quelque sorte, le progressisme version écolo, le progressisme version de gauche, le progressisme version macroniste, et même d'une certaine manière pour la droite, c'est pas la droite la plus dure non plus qui est présente à Paris. Et donc vous avez la possibilité comme ça de comment dirais-je, le paysage politique n'est pas lesté par une opposition simple. Et on sait très bien, d'ailleurs le cas de Biarritz c'est aussi intéressant, on sait très bien que dans les villes autrefois où la gauche est dominée très largement, comme à Montreuil, par exemple, il y avait souvent des dissidences et souvent des combinaisons très, très compliquées.
Oui, mais enfin, deux ministres d'un même gouvernement, c'est quand même assez rare. Ils ont une visibilité qui est plus...
C'est assez rare, mais rappelez-vous que même Jacques Chirac n'avait pas réussi à maintenir l'ordre à droite dans sa ville de Paris. Donc sa succession avait été quand même très difficile et c'est pour ça que M. Seguin avait fini par être battu. Donc effectivement, c'est assez rare, mais encore une fois, les élections municipales se prêtent vraiment admirablement à ce genre de confusion.
Oui, je n'avais pas terminé ma phrase, mais je rappelais que Lionel Jospin, pour trancher le différend qu'il y avait entre Bertrand Delanoë et Jacques Lang, qui voulait être candidat à Paris, avait fait entrer Jacques Lang au gouvernement.
Oui. Mais là aussi, vous voyez sur Paris, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est à peu près la même clientèle et qu'il y a une très... Derrière, ces querelles de personnes sont d'autant plus vives qu'il n'y a pas réellement de querelles programmatiques. Et on sait bien qu'en politique, c'est toujours avec ses plus proches que les affrontements sont les plus durs. Alors qu'inversement, quand il y a des oppositions idéologiques, sociales, etc., très claires, ça régule finalement le jeu. Et à mon avis, c'est un excellent serre-file. Ça fonctionne presque aussi bien que les primaires, cher Olivier Duhamel.
Et après les municipales, la présidentielle. Et pour la présidentielle, il y a un point commun, il n'y en a pas tellement, mais il y a un point commun entre Jérôme Sainte-Marie et Emmanuel Macron, c'est que c'est une... Sauf que ce n'est pas avec les mêmes mots, c'est bloc contre bloc, bloc progressiste contre bloc patriote, dirait Macron et Le Pen, bloc élitaire contre bloc populaire, nous dit Jérôme Sainte-Marie, il explique dans... Allez, deux minutes.
Tous les samedis sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Et ce 25 janvier, ils reçoivent le président de Pollingvox, Jérôme Sainte-Marie, qui a publié il y a peu aux éditions Le Cerf, bloc contre bloc, la dynamique du macronisme.
Et Jérôme Sainte-Marie nous dit le clivage droite-gauche, c'est fini. Il y a un nouveau clivage qui est dominant, celui entre ce qu'il appelle le bloc élitaire et le bloc populaire, entre les libéraux et les nationaux opposés à la mondialisation, si l'on veut. Sauf qu'il y a quelqu'un qui pense aussi probablement que le clivage droite-gauche n'est plus déterminant, mais qu'il n'y a pas que ces deux blocs, il y a une troisième force, lui. Écoutez.
Évidemment, et je l'ai toujours dit, moi, je veux contribuer à ce qu'il y ait une alternative, une alternance d'espoir.
Donc
une
vous alternance serez candidat à la présidentielle.
Qui réconcilie les Français, qui rassemble. Non, j'y participerai à cette dynamique-là. On n'est pas encore à, comme Marine Le Pen,
mais
qui
si
ne pense qu'à
est,
ça,
Marine
comme
Le Pen
d'autres
s'est déclarée
qui ne pensent
hier,
qu'à ça.
Ségolène Royal est quasi-candidate.
Eh bien, elles font ce qu'elles veulent.
C'était donc Yannick Jadot, eurodéputé Les Verts, invité du grand entretien d'Ali Badou sur France Inter, vendredi 17 janvier. Alors, on constate quand même que dans beaucoup de pays, et puis même chez nous, il y a une nouvelle force politique, enfin nouvelle, une force politique qui connaît une ascension, qui n'est ni élitaire ni populaire, mais vert.
Oui, alors. Donc
vous pensez-vous que c'est impossible, par exemple, pour un candidat vers élargi d'accéder au second tour de la présidentielle?
Ça me paraît très difficile. Je comprends bien le volontarisme tout à fait respectable de M. Jadot. De la même manière, il y a des gens qui considèrent qu'il faut réunifier la gauche, parfois avec les écologistes, d'autres qui considèrent qu'il faut faire l'union des droites. Et tous ces gens-là ont finalement un point commun, c'est de pas prendre tellement au sérieux l'entreprise d'Emmanuel Macron, et contrairement à moi, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron et ses conseillers qui théorisent l'affrontement entre progressistes et populistes. On peut contester le choix de ces termes qui sont très connotés, mais la réalité est apparue de cet affrontement au second tour de la présidentielle. Les deux candidats ne se reconnaissaient, aucun des deux candidats ne se reconnaissait dans le clivage gauche-droite. C'est apparu également aux européennes, les deux listes en tête ne se reconnaissent pas dans le clivage gauche-droite, ni d'ailleurs celle qui est arrivée derrière, c'est-à-dire la liste écologiste, qui ne se reconnaît pas. Alors, pourquoi est-ce que je suis assez sceptique sur cette initiative écologique? Alors déjà, ce n'est pas la première fois que les écologistes font des bons scores aux élections européennes. La liste conduite par Daniel Cohn-Bendit avait fait mieux que les 13%, avait fait 16%, et ça ne s'est jamais concrétisé à la présidentielle. Et surtout, fait majeur, il me semble que le vote écologiste prospère dans les catégories moyennes, mais ne correspond pas à cet affrontement qui est un affrontement avant tout social, me semble-t-il, entre le bloc élitaire et le bloc populaire, qui me semble, lui, très solide, parce que cohérent idéologiquement, cohérent sociologiquement, et il me semble devoir structurer les élections à venir.
Oui, et puis les Verts, il faut une incarnation. Donc Yannick Jadot qui a fait 13%, d'ailleurs ce qui a surpris tout le monde parce que c'est un très très bon score, il n'a aucune envie d'être candidat à la présidentielle. Donc qui voyez-vous dans chez les Verts qui soit capable d'être tête de liste? Donc tout dépendra de la personne parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de droite-gauche, il y a les progressistes ou les populistes, être aujourd'hui écologiste, c'est ce qui fait sens chez les jeunes, vous voyez. On se dit être écologiste aujourd'hui, c'est une forme de participation. Donc un candidat écologiste devrait ramasser des voix. Mais s'il n'y a pas d'incarnation qui soit attrayante, ben non, ça peut...
Bon, alors puisque ni l'un ni l'autre vous les voyez, on va passer à la question suivante. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui soyez iconoclaste, Jérôme Sainte-Marie. Donc je vais poser une question encore plus iconoclaste. Qu'est-ce qui vous empêche de dire que dans votre opposition entre bloc populaire et bloc élitaire, parce que c'est le populaire qui est identitaire, je reprends, entre bloc populaire et bloc élitaire, qu'est-ce qui vous empêche de dire que c'est la nouvelle forme prise par le clivage gauche-droite? Donc, le bloc populaire, c'est la gauche, et le bloc élitaire, c'est la droite. Et tout ce que vous développez dans votre livre sur le bloc élitaire l'identifie à la droite, le libéralisme économique poussé jusqu'au bout, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas la nouvelle incarnation du clivage gauche-droite? Vous me répondez dans moins de 2 minutes.
Jérôme Sainte-Marie, le président de la société d'études et de conseil Pollingvox, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Mediapolis ce samedi.
Et il va répondre à la question scandaleuse. Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête en chemin et qu'il ne dit pas, bah oui, c'est bloc populaire contre bloc élitaire? C'est donc la nouvelle forme du clivage droite-gauche. C'est Le Pen la gauche contre Macron la droite.
Olivier Duhamel, je vous remercie de votre question, effectivement. Alors, le nouveau clivage, il a déjà existé, en fait, dans les élections françaises. Il existait 2 fois avant l'élection présidentielle de 2017.
Les référendums sur l'Europe.
Les 2 référendums sur l'Europe. C'était 1992 sur Maastricht et 2005. Donc, dans les deux cas, vous aviez eu, du côté du oui, effectivement, une France mieux dotée culturellement, financièrement, habitant plutôt dans les centres-villes, etc., qui s'était affrontée à une France plus périphérique, comme on est maintenant, plus modeste, et ayant souvent des niveaux de diplôme moins importants. C'était la France du oui contre la France du non. Rappelez-vous. Et la France du oui, ça ressemble beaucoup au vote Macron. Et la France du non, ça ressemble énormément au vote Le Pen de second tour, par exemple.
Ça est très pertinent, mais ne répond pas à ma question.
Oui, mais rappelez-vous, dans le oui, il y avait de la gauche et de la droite. Et dans le non, il y avait de la gauche et de la droite. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous aviez autrefois à gauche, un ensemble culturel aussi, où vous aviez effectivement des gens de catégories populaires, mais beaucoup de classes moyennes, et puis d'une fraction importante des catégories dominantes. Et même chose à droite. Et la gauche et la droite avaient besoin, en plus, pour le second tour, de s'allier avec les catégories populaires. Ce qui est radicalement nouveau dans le nouveau monde qu'on nous annonce et qui est là depuis 2017, c'est la réunification de la bourgeoisie d'un point de vue sociologique, la réunification du libéralisme économique et du libéralisme culturel dans le progressisme à la Macron, et enfin la réunification de très nombreux cadres de gauche et de droite politiquement. Et donc on ne peut pas caricaturer Emmanuel Macron, pour lui en dire du bien ou en dire du mal d'ailleurs, mais on ne peut pas le caricaturer comme un président de droite. Et bien sûr, j'ai le goût du paradoxe, mais de là à dire que Marine Le Pen serait la représentante de la nouvelle gauche, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc je crois qu'effectivement, il faut assumer le fait qu'on a basculé d'un univers très différent. Et pour moi, l'opposition est clairement entre un libéralisme intégral, disons d'un côté, du côté de Emmanuel Macron, et un souverainisme intégral du côté de Marine Le Pen. Ça me paraît les deux pôles pas... Ça ne résume pas la vie politique française. Il y a toujours quasiment 1 Français sur 2 qui refuse ce choix au premier tour. Mais ça me paraît les pôles les plus structurants et les plus cohérents.
Un des problèmes de votre thèse, c'est qu'il y a plus d'1 Français sur 2 qui recuse ce choix.
Ah, moi, d'après les sondages, moi.
Qui ne veulent pas revoir. Oui, non, je parle de ceux qui ne veulent pas revoir,
mais ils choisissent. Mais ils les choisissent dans les sondages. Là, c'est près de 6 Français sur 10 qui choisissent soit l'un, soit l'autre au premier tour.
Oui, mais pendant ce temps-là, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est pareil et c'est très différent. C'est très différent d'abord parce que vous avez un président en exercice et en campagne électorale qui est en ce moment dans un procès d'impeachment. Alors Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui surveille pour nous les médias internationaux, nous a repéré un article de Wired du 21 janvier qui explique que l'équipe de Donald Trump sur l'impeachment a commencé à révéler des indices sur la façon dont ils envisagent de bloquer le dossier. Ils prévoient de faire valoir que pour des raisons liées à la sécurité nationale, ils ne peuvent pas partager, laisser étudier les preuves demandées. Et cette expression apparaît désormais partout. Les avocats Trump et républicains du Sénat l'ont également reprise pour pousser contre le témoignage du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, ou pour le faire dans un cadre clos et classifié, afin de garantir que ses paroles ne soient jamais vues ou entendues par le public. Pour cet article de Wired, il faut faire attention à ce positionnement parce qu'il a comme un air familier. En fait, l'idée de préserver la sécurité nationale a été employé exactement de la même façon par Richard Nixon au moment de l'enquête sur le Watergate, quand il a cherché à empêcher la publication de ses désormais célèbres bandes sonores, bandes enregistrées du bureau ovale. La stratégie de Trump qui consiste à crier au loup au mauvais moment va-t-elle être aussi contre-productive que pour Nixon? Les affirmations de Nixon concernant la sécurité nationale se sont effondrées au fur et à mesure que sa propre destitution s'est déroulée. Alors, l'article ne dit pas qu'il va se passer la même chose, il dit que ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Et pendant ce temps-là, Ben, pendant ce temps-là, Trump, il se renforce, figurez-vous. Moi, j'étudie avec beaucoup de détails, parce qu'il y a un site formidable pour ça qui s'appelle Real Clear Politics. Et vous avez tous les jours les sondages des différents organismes aux États-Unis sur la popularité de Trump, sur le résultat du caucus le 3 février dans l'Iowa, sur la présidentielle nationale, etc., etc. Et on s'aperçoit que la popularité de Trump remonte et que ça se resserre. Trump, c'est bloc populaire conduit par un dirigeant de l'élite contre bloc élitaire.
Je crois que c'est très difficile de faire des comparaisons internationales. Il est difficile également de comparer ce qui se passe en France à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Certains, parce que par exemple, les retraités qui votent pour le Brexit, pour la sortie de l'Europe en Grande-Bretagne, sont au contraire, les retraités en France sont ceux qui sont le plus attachés quasiment à nos ancrages européens. Donc ces comparaisons sont très difficiles. Je voudrais juste nuancer, Olivier Duhamel, ce que vous avez dit. J'ai été frappé par le fait qu'il y a quand même des sondages. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui disent, notamment les milieux un peu souverainistes, qui disent « Regardez, on attaque Trump dans les médias, mais en fait, il est soutenu par la population. » Pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Il remonte, mais enfin, là, les États-Unis sont très clivés. J'ai vu d'un sondage CNN très récent, montrant qu'une majorité d'Américains, aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques mois, souhaitent que la procédure aille jusqu'au bout.
Oui, alors il faut qu'on passe à la chanson, mais juste, moi j'ai une analyse sur les commentateurs français qui nous annoncent tous la réélection de Trump, c'est que même ils se sont tous trompés la dernière fois en disant que Trump serait jamais vainqueur des primaires et après jamais élu contre Clinton. Maintenant, pour se couvrir, ils disent tous qu'il va être élu. C'est aussi exagéré dans un cas que de l'autre. Vous avez un avis, Catherine?
Non, je n'ai pas d'avis, mais je vois qu'il parle à son électorat, uniquement à son électorat. Et donc, sa base, même si elle s'effrite un peu, elle est quand même encore très solide.
Et bien, vous
et
rejoignez...
qu'il n'a, dans le camp des Républicains, personne contre lui.
Et vous rejoignez une thèse très soutenue de politologues américains que la condition première, pas suffisante, mais première pour être élu président, c'est de conforter sa base.
Voilà.
Bon, alors, pour la chanson, « Always look on the bright side of life », prenez toujours la vie du bon côté, chanson écrite par Eric Idle, pour le film La vie de Brian, de la troupe comique anglaise Monty Python, qui est devenue depuis une chanson très populaire en Angleterre, dans les stades de foot, aussi bien que dans les funérailles. Et c'est un hommage à Terry Jones, membre de la troupe des Monty Python, disparu cette semaine. Always look on the bright side of life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Allez, toujours regarder du bon côté. Don't gribble, give a whistle, ne grogne pas, siffle. Eh bien, Jérôme Saint-Paris n'a pas grogné, il a sifflé pour notre bonheur dans cette émission réalisée aujourd'hui par Jérémy Hébert et préparée par Capucine Patouillet. Merci Catherine Ney, merci Jérôme Saint-Paris,
merci
Justine.